Chapitre 31. Les deux châteaux. Ils travaillèrent toute la nuit à la lueur des torches. La tempête de neige se calma vers 4 heures du matin, mais le vent restait fort et continuait de pénétrer partout, des salles de classe aux dortoirs. Par chance, les ados du tipi, pour venir emménager dans le château avant l'hiver, avaient utilisé des roulottes bâchées, faciles à tirer si l'on s'y mettait à 2 ou à 4. Les chariots avaient servi à transporter des matelas, d'épaisses fourrures, des édredons de laine, des couvertures de peau, le stock de viande séchée, mais aussi les différents meubles qui ne passeraient pas l'hiver dans le tipi et qu'il valait mieux protéger. Au total, 12 roulottes étaient garées dans la cour carrée et pourraient servir à emporter l'essentiel, du Louvre jusqu'à Versailles. La distance jusqu'à Versailles n'était que de 20 kilomètres, avait calculé Valère l'historien, qui s'improvisait géographe en l'absence d'Haussmann et Brazza. La moitié à parcourir en ville, et la moitié à travers la forêt de fausses reposes. Si aucune nouvelle tempête de neige n'éclatait, le convoi pourrait rallier le château de Versailles en moins de 5 heures. Augénor avait donné des ordres précis, Calix avait approuvé. Chaque ado avait le droit de ne prendre que le strict minimum. Des vêtements pour 2 jours, un nécessaire de toilette, une serviette, plus 3 objets personnels. 3 chariots étaient réservés à chaque pavillon. Isalis devait superviser le choix des tableaux et des œuvres qu'on devait emporter en priorité pour les protéger. Liu, faire le tri dans les livres, instruments de mesures indispensables, inventions prioritaires sur lesquelles les savants devaient continuer de travailler. Et Jean d'Arc entassait le maximum d'armes, de bow bien sûr, mais aussi des arcs, des flèches, des arbalètes, des épées. Le reste serait mis à l'abri, dans les caves et le donjon du château. On les retrouverait dans 2 mois, dès que la météo le permettrait. Il serait toujours possible, en cas d'éclaircie, de continuer à procéder au déménagement par un rapide aller-retour dans la journée. Mais cette nuit, l'urgence était de retrouver un lieu sec et clos en sauvant tout ce qui pouvait être sauvé. Sous le contrôle de Vanil, qui inventoriait avec méticulosité chaque chargement, les 12 chariots furent chargés et bâchés un peu après 6 heures du matin. Un soleil rouge enflammait déjà le ciel au-dessus des toits, présage d'une journée plus clémente. La neige avait cessé de tomber. Les conditions ne pouvaient pas être plus favorables.
« Go !»
cria Hakan, tirant presque à lui tout seul le premier chariot. Jean d'Arc et 3 soldats suivaient. Augénor était assis à l'avant de la 3e roulotte, tiré par les infatigables Django et Idriss. 3 groupes avaient été désignés, ceux armés de pelles et de balais qui dégageraient au maximum la neige devant le convoi, ceux qui tireraient et pousseraient les chariots, ceux qui se reposeraient ou du moins se contenteraient de marcher en s'enfonçant dans les 40 cm de neige. Les équipes se relayeraient toutes les 30 minutes. Le 1er kilomètre fut bouclé avec enthousiasme. Les balayeurs étaient partis en avance et avaient eu le temps de creuser 2 sillons dans la neige qui permettaient aux chariots de rouler presque aussi vite que les marcheurs. Mais dès la montée des Champs-Élysées, après la place de l'Aiguille, ils comprirent que l'espoir de rejoindre Versailles en 5 heures était bien trop optimiste. Près de 50 centimètres de neige s'étaient accumulés dans l'avenue, et tracter les chariots nécessitait une force démesurée, même en s'y mettant à 4 et en se relayant toutes les 15 minutes. L'arc de triomphe au bout de l'avenue apparaissait presque impossible à atteindre. Ils l'atteignirent pourtant, et continuèrent de progresser rue après rue. Ils mirent près de 6 heures à sortir de la ville.
« On a fait la moitié du trajet !» assura Valère, enthousiaste. « Si on garde le rythme, on sera au chaud avant la nuit !»
Augénor, toujours assis dans le 3e chariot, ne disait rien, mais appréciait sa motivation, feignant de ne pas entendre les grognements des tireurs, pousseurs, balayeurs, qui se demandaient ce qu'on allait faire aussi loin de Paris alors que la ville était remplie de maisons qui auraient suffi à les abriter le temps que la météo se calme. Elle ne se calmait pas. La neige se remit à tomber lorsque la caravane atteignit le pont de Saint-Cloud. Plus froide et collante que jamais. la glu blanche adhérée aux roues, aux bâches et aux bottes. Tous, bien qu'équipés de bonnets, d'écharpes, de gants, de cols fourrés, essayaient de s'abriter derrière les chariots, à l'exception des balayeurs et des tireurs. Ils avaient décidé de ne pas faire de pause pour manger et picoraient tout en marchant, du bout de leurs doigts gelés, du pain, des fruits ou des œufs durcis par le froid. La traversée du pont de Saint-Cloud fut épique. Le vent tourbillonnait, s'engouffrait sous les bâches, semblait vouloir précipiter les chariots dans le fleuve. Il fallait 8 ados par chariot pour le maintenir en équilibre, alors que 5 autres le tiraient et 6 autres le poussaient. Les roulottes passèrent pourtant les unes après les autres. L'effort physique les réchauffait, les galvanisait.
« Nous serons protégés dans la forêt !» prophétisa Valère. « La neige sera moins épaisse dans les sous-bois. Fausse repose est la forêt des rois. Elle a été tracée pour la chasse à cour. Les sentiers sont larges. On y circulera facilement. »
Chacun voulait le croire, mais la cime des arbres enneigés, face à eux, ne présageait rien de bon, pas davantage que la tempête qui redoublait. Ils s'enfoncèrent dans la forêt malgré tout. Un objectif décuplait leurs forces, motivait toute l'expédition, arrivée avant la nuit. Il restait à peine 8 kilomètres à parcourir. Ils y arriveraient. Ils avaient fini par atteindre ce que l'on aurait pu appeler une vitesse de croisière, une progression lente mais régulière. Chacun gagnait en endurance et en puissance. À défaut de pouvoir estimer à quelle allure l'équipage progressait dans la blancheur immaculée de la forêt, ils fixaient des points de repère sur des arbres lointains qu'ils essayaient d'atteindre avant de viser un nouvel arbre plus loin. Cet arbre, par exemple, curieusement planté au milieu du sentier. Cet arbre, secoué plus que les autres par le vent. Cet arbre qui bougeait. Tout le convoi se figea. L'arbre avançait vers eux en moulinant des bras. Ils comprirent leur méprise au fur et à mesure qu'il approchait. C'était un homme ou une femme, mais cela paraissait tout autant impossible qu'un sapin qui se serait mis à marcher. Quel être vivant aurait pu se promener en pleine forêt par ce froid? Tous les ados étaient partis dans la même caravane. Vanille avait pointé avec précision la présence de chacun.
« À l'aide !»
criait la silhouette.
« À l'aide ! Je vous en supplie !»
Elle avança encore. Ils reconnurent d'abord la cape de plumes blanches et noires, puis la corpulence de taureau, large et trapu, avant d'identifier la voix paniquée. Bill. Il courut vers le convoi, sans se soucier des arcs qu'aussitôt Jeanne d'Arc et Diana pointèrent sur lui. Ses pieds n'étaient protégés que par des morceaux de tissu noués autour de ses chevilles, mais il ne paraissait pas en souffrir. Ses yeux étaient comme fous. Il s'arrêta à 1 mètre d'Akan, qui depuis le début de leur expédition, pour imprimer le rythme, tractait le premier chariot, sans s'accorder aucun repos, ni accepter aucune relève.
« Akan, je t'en supplie, c'est Mordelia. Elle est blessée. Un arbre couvert de givre s'est écroulé sur elle. Elle est coincée. J'arrive pas à la dégager. J'y arriverai pas seule. »
La voix d'Augénor jaillit du troisième chariot, plus rapide, plus meurtrière qu'une flèche.
« Dégage de la route avant qu'on te roule dessus. »
Bill ne bougea pas. Le convoi était arrêté en pleine forêt.
« Pousse-toi !»
répéta Augénor. Il sortit la tête du chariot bâché.
« Tu as 5 secondes avant que les soldats t'abattent. Estime-toi heureux qu'on ne l'ait pas déjà fait. »
Bill défia Augénor du regard un instant, sans esquisser le moindre geste, puis chercha à attraper les yeux des ados du tipi devant lui. Il fixa successivement Chrysante, assise dans le 4e chariot, Zizo, qui, aidé d'Alix, dégageait la roue du 2e, Vanille, debout dans la neige, ses cheveux blonds volant au vent, occupé à contrôler l'étanchéité des bâches du convoi, Gulot-Gulot, Pépin, Suzy, droits et raides dans leurs bottes de cuir, avant de s'arrêter de nouveau sur Akan.
Elle va mourir. Elle va mourir si vous ne m'aidez pas.
Bill tremblait de peur. Pas celle de mourir, il s'en fichait. il voulait bien donner sa vie pour sauver celle de Mordelia.
5, 4,
commença à décompter Augénor.
Je vous en supplie.
3.
Jeanne d'Arc bandait son arc. Tous avaient conscience que Bill et Mordelia étaient responsables de leur malheur, qu'ils étaient l'unique cause de cette expédition tragique, que les dégâts au château seraient peut-être irréparables, y compris des œuvres millénaires, sans oublier la destruction des moulins du fleuve, les seuls capables de produire de l'énergie.
2.
Vous ne pouvez pas la laisser mourir ainsi. Elle est là-bas, dans la forêt, à moins de 10 minutes de marche.
10 minutes aller, 10 minutes retour, en ajoutant le temps de la dégager, c'était 30 minutes de perdu. C'était beaucoup trop, calculaient les ados, pour qu'ils puissent arriver au château avant la nuit. Mordelia n'avait eu que ce qu'elle méritait. C'était Marie-Lune qui l'avait punie, durent penser les plus superstitieux. Et Bill ne recevrait lui aussi qu'une juste punition, une flèche en plein cœur, s'il ne s'écartait pas.
1,
laissa tomber Augénor comme un couperet. Jeanne d'Arc hésita à tirer. Jamais il n'aurait imaginé devoir tuer un ado.
« J'y vais !»
cria une voix sourde. La décision surprit tout le monde.
« J'y vais !»
répéta Akan.
« Que le convoi parte sans moi. Je le rejoindrai, ainsi vous ne serez pas ralenti. »
Augénor allait protester, mais pour la première fois, Alix prit la parole.
Akan est le secrétaire général de la paix. S'il estime que le maintien de la paix passe par le secours porté à Mordelia et que cela ne retarde pas le convoi, nul n'a le pouvoir de l'en empêcher.
Akan s'était déjà écarté, laissant Wayne et Cheyenne tirer le premier chariot. Il s'adressa à Bill.
Dépêche! Mène-moi à elle, je te suis.
Une silhouette légère jaillit derrière eux.
Et moi aussi, je te suis!
Fit Sabi.
Désolé, mon cavalier, mais je ne fais pas confiance à ce gros Bill. Et encore moins à cette Mordelia.
Bill ne commenta pas. Il commençait déjà à s'enfoncer dans la forêt. Akan n'eut pas non plus le temps de protester que Zizo s'était lui aussi écarté du chemin.
Je viens également avec vous. Si c'est un piège, on ne sera pas trop de 3.
Le convoi allait repartir, allégé de 3 membres, quand Alix à son tour s'exprima. Impossible de laisser Zizo partir sans elle.
Je les accompagne,
fit-elle à la stupéfaction générale.
Tant qu'Akan ou moi ne serons pas revenus, je désigne Augénor comme seul responsable du convoi. Mordelia et Bill seront sauvés, puis amenés au second château pour y être jugés. Aucun acte, même le plus terrible, ne mérite une condamnation à mort.